Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
J'aimerais vous parler aujourd'hui de phénomènes relativement fréquents, bien qu'assez imprévisibles et toujours fascinants, les comètes. Cet hiver, une comète a traversé le ciel. Elle n'était pas visible à l'œil nu, mais a pu être vue aux instruments. Son petit nom, c'était ZTF. Mais son matricule complet, c'était C2022E3ZTF. Le nommage des comètes, c'est un sujet épineux, mais passionnant pour les amateurs d'étymologie. La tradition, c'est de donner aux comètes le nom de leurs découvreurs, jusqu'à trois noms associés en cas de découverte simultanée. Mais ces noms, ceux qui sont retenus par le langage et la presse populaire, peuvent être ambigus à cause des homonymes, mais aussi parce que certains découvreurs découvrent plusieurs comètes. Les astronomes, avec leur souci de précision, ne pouvaient vraiment pas se contenter de ce système et se sont mis en tête d'immatriculer les comètes. Le système a dû être perfectionné plusieurs fois, mais voici où nous en sommes. Depuis 1995, l'Union Astronomique Internationale désigne les comètes ainsi. D'abord, un préfixe. C pour comète, pour les comètes de période supérieure à 200 ans. P pour les comètes à courte période, c'est-à-dire qu'elles reviennent à proximité du Soleil en moins de 200 ans, ou dont on a observé plusieurs fois les retours de façon certaine. Et plus rarement X pour les comètes pour lesquelles une orbite n'a pas pu être déterminée. Et puis D pour les comètes qui ont disparu et que nous ne reverrons plus. Ensuite, une désignation séquentielle suivant l'ordre des découvertes. L'année d'abord, puis une lettre en majuscule qui identifie le demi-mois de la découverte. Donc c'est A pour la première quinzaine de janvier, B pour la deuxième quinzaine de janvier, C pour la première quinzaine de février, etc. Puis un nombre indiquant l'ordre de découverte dans ce demi-mois. Et enfin, le nom du ou des découvreurs est optionnellement ajouté pour respecter la tradition. Ainsi, la comète dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une comète C, donc c'est une comète à longue période. Elle a été découverte en 2022. Le E signifie qu'elle a été découverte entre le 1er et le 15 mars. Le chiffre suivant indique qu'elle était la troisième comète découverte dans cette quinzaine. Et son nom, ZTF, indique qu'elle a été découverte par le Zwicky Transient Facility. C'est une nouvelle caméra installée sur le télescope Samuel Hochin de l'observatoire de Palomar en Californie, aux États-Unis. Cette caméra a été mise en service en 2018. Elle a été conçue pour détecter les objets transitoires dont la luminosité change rapidement, comme par exemple des supernovas, des sursauts gamma, les collisions entre deux étoiles à neutrons, ainsi que des objets mobiles comme les comètes ou les astéroïdes. Pour la petite histoire, on peut rappeler qu'avant 1995, les comètes recevaient deux désignations officielles. Une désignation provisoire était attribuée à la découverte, l'année de la découverte suivie d'une lettre minuscule pour l'ordre de découverte dans l'année. Ensuite, une désignation définitive était donnée environ deux ans après. L'année du passage au périhélie, c'est-à-dire le moment où la comète est passée le plus près du Soleil, suivie d'un chiffre romain donnant l'ordre de passage parmi les comètes passées au périhélie cette année-là. Ainsi, la comète West, découverte en 1975 et passée au périhélie le 25 février 1976, s'est d'abord appelée 1975 N, puis 1976 6. Sa désignation actuelle, c'est C1975V5West. Cet ancien système de désignation était assez mal commode parce que le nombre de comètes découvertes chaque année, grâce à l'amélioration des télescopes, épuisait assez rapidement l'alphabet. De plus, on peut maintenant observer des comètes à courte période tout au long de leur orbite avec les télescopes modernes. Donc la désignation provisoire n'a plus vraiment de sens. Et puis enfin, on peut découvrir des comètes après leur périhélie, ce qui ne permettait pas vraiment de leur donner une désignation définitive cohérente. La date de découverte était postérieure à la date du périhélie. Bref, laissons de côté ces nomenclatures et revenons à nos comètes. Qu'est-ce que c'est une comète ? Une comète, c'est un petit corps céleste constitué d'un noyau de glace et de poussière en orbite autour d'une étoile. Le mot comète vient du grec ancien cométès, astré, qui signifie astre chevelu. En effet, lorsque son orbite, qui est généralement à la forme d'une ellipse très allongée, amène cette comète près de l'étoile, par exemple le Soleil dans le cas du système solaire, la comète est exposée à diverses forces émanant de cette dernière. Vent stellaire, pression de radiation, gravitation. Le noyau s'entoure alors d'une sorte de fine atmosphère brillante constituée de gaz et de poussière, appelée chevelure ou coma. Elle est souvent prolongée par deux traînées lumineuses, composées également de gaz et de poussière, et ça s'appelle les queues. Il y a une queue de gaz ionisé et une de poussière. Elles peuvent s'étendre sur plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Le centre des planètes mineures répertorie au 1er janvier 2020 plus de 4000 comètes. Dans le système solaire, quand elles s'approchent suffisamment de la Terre, ou que leur magnitude est importante, les comètes deviennent visibles à l'œil nu, et parfois même en plein jour. Elles peuvent être très spectaculaires. Elles sont alors classées comme grandes comètes. La plus récente comète visible à l'œil nu, c'était la comète Neowise, qui a été visible pendant plusieurs jours durant l'été 2020. Depuis, d'autres comètes ont parcouru notre ciel, comme la comète ZTF, mais elles n'étaient observables qu'avec des instruments. On peut citer évidemment la très célèbre comète de Halley, qui revient près de la Terre tous les 75 ans. C'est certainement la plus connue de toutes les comètes. Mais il y a aussi la comète Elbop. Elbop, c'est certainement la comète la plus observée. Elle est restée visible 18 mois, en 1997. Elle était visible même dans un ciel de ville, tellement elle était lumineuse. Sa queue de poussière s'étendait dans le ciel sur 40 à 45 degrés d'arc. Elbop a été découverte le 23 juillet 1995 à une très grande distance du Soleil, par un astronome amateur, faisant naître des espoirs qu'elle deviendrait bien plus brillante en s'approchant du Soleil et de la Terre. Bien que la prévision de brillance des comètes soit toujours difficile, Elbop a satisfait et même dépassé les prédictions à son passage au Périhélie le 1er avril 1997, ce qui lui valut l'appellation de la grande comète de 97. Le passage de Elbop a aussi été remarquable par la panique qu'elle a déclenchée. Des rumeurs se sont vite répandues selon laquelle elle serait suivie d'un vaisseau spatial extraterrestre. Ces rumeurs ont inspiré un suicide collectif des sectateurs du Heaven's Gate. Mais revenons un peu sur la comète de Halley. Elle est certainement la plus connue de toutes les comètes parce qu'elle revient au voisinage de la Terre tous les 75 ans. On a retrouvé une mention de son passage en 611 avant Jésus-Christ. Et la dernière fois qu'elle a été visible, c'était en 1986. Elle est le premier objet à avoir été considéré comme une comète, et ce dès le tout début du XVIIIe siècle. En effet, en 1705, c'est Edmond Halley qui a publié un livre avançant que les comètes qui étaient apparues dans le ciel en 1531, 1607, 1682 étaient en fait une seule et même comète, expliquant que la comète voyage sur une orbite elliptique qui prend 76 ans pour faire une révolution complète autour du Soleil. Halley prédit donc qu'elle reviendra en 1758. En 1757, Lalande, aidé de Nicole Reine Lepaute et sur la base de formules conçues par Clairaut, décide de calculer la déviation de la comète due aux grosses planètes. Il prédit un retard de 518 jours dû à Jupiter et 100 jours dû à Saturne. Il annonça donc le retour de la comète non pas en 1758 comme l'avait prédit Halley, mais en 1759 avec un passage au Périhélie en avril 1759, avec une incertitude de plus ou moins un mois. Lorsque la comète réapparut en décembre 1958, avec un passage au Périhélie le 13 mars 1759, ce fut un triomphe. Cette prévision permit d'asseoir définitivement la mécanique newtonienne en France. La théorie des tourbillons de Descartes tombant ainsi dans l'oubli. L'appellation comète de Halley apparaît la toute première fois sous la plume de Dirk Kinckenberg, dans une lettre adressée à Nicolas-Louis de Lacaille. Mais Newton et Halley, dont le génie allait être couronné par la réapparition de cette comète, étaient morts en 1727 et 1742. Ils n'étaient plus en vie pour assister à leur triomphe. J'aimerais maintenant vous parler d'une autre conséquence des comètes. C'est la présence d'eau sur Terre. Selon la théorie dominante, la Terre se serait formée par la collision de petits corps célestes, les planétésimaux. Comme ils sont relativement pauvres en eau, la présence d'eau sur la Terre a dû être apportée soit par un planétésimal plus gros, soit par une pluie de tout petits objets, tels que les astéroïdes ou les comètes. Pour remonter à la source d'eau terrestre, les chercheurs ont étudié les rapports isotopiques, en particulier le rapport entre le deutérium et l'hydrogène. Le deutérium, c'est une forme d'hydrogène, il a un neutron de plus. À l'approche du Soleil, les glaces d'une comète se subliment, c'est-à-dire qu'elles passent directement de l'état solide à l'état gazeux, formant ainsi une atmosphère de vapeur d'eau, qui peut être analysée à distance. Or, les rapports deutérium-hydrogène des comètes, mesurés jusqu'ici, sont en général compris entre 2 à 3 fois celui des océans. Ce qui signifie que les comètes n'ont apporté que 10% de l'eau sur Terre. Alors d'où peuvent bien venir les 90% restants ? Les scientifiques n'en ont aucune idée. En tout cas, n'en avait aucune idée jusqu'à il y a 5 ans. Lors de son passage près de la Terre en décembre 2018, la comète 46P Virtanen a pu être analysée grâce à l'observatoire volant SOFIA, embarqué à bord d'un Boeing. Elle a été la troisième comète à présenter le même rapport deutérium-hydrogène que l'eau terrestre. Comme les deux précédentes, elle appartient à la classe des comètes hyperactives, qui, à l'approche du Soleil, libèrent plus d'eau que ce que devrait permettre la surface de leur noyau. L'excès est produit par des particules riches en glace, présentes dans leur atmosphère. Plus une comète tend vers l'hyperactivité, plus son rapport deutérium-hydrogène diminue et s'approche du rapport deutérium-hydrogène de la Terre. Les chercheurs suggèrent donc que les rapports deutérium-hydrogène mesurés dans l'atmosphère des comètes ne sont pas forcément représentatifs des glaces présentes dans le noyau. Si cette hypothèse est vraie, alors l'eau de tous les noyaux cométaires pourrait être en fait beaucoup plus proche du rapport de la Terre. Et alors ça rouvre le débat sur l'origine de nos océans. L'eau pourrait bel et bien provenir du cœur des comètes. Alors vous vous demandez certainement quand sera la prochaine comète visible. Il y en a déjà une qui est visible dans le ciel, pas forcément à l'œil nu, qui devrait gagner en magnitude pour le mois de septembre 2023. Et une autre comète, prévue pour l'année 2024, est déjà prometteuse et elle a été repérée par Science Alert le 7 mars 2023. Cette comète, nommée C2023A3, a été découverte récemment, le 22 février dernier. De plus amples recherches ont montré que l'objet se cachait déjà dans des observations du 12 décembre 2022 sur le ZTF. Mais sa nature cométaire n'a été confirmée que le 24 février. Cette comète est en train de s'approcher du Soleil et de la Terre. Lors de son approche de notre voisinage, elle pourrait fortement briller dans le ciel nocturne, avec bien plus d'intensité que certaines étoiles. Sa brillance pourrait être maximale au mois d'octobre 2024. Son périhélie, c'est-à-dire le moment où elle sera le plus près du Soleil, est prévu le 28 septembre 2024. Quelques semaines après, le 13 octobre, elle devrait être au plus près de la Terre. Alors il est trop tôt encore pour affirmer que cette comète sera particulièrement brillante, car ce type d'objet est assez imprévisible. Cependant, les estimations actuelles prévoient une magnitude de 0,7 au moment du périhélie. À titre de comparaison, Antares, qui est l'étoile la plus brillante du Scorpion, a une magnitude un peu plus de 1. Donc cette comète devrait être vraiment spectaculaire.